L'aide active à mourir, avec Raphaël Enthoven et Damien Leguay. Projet de loi autorisant l'aide active à mourir va être, dans les prochaines semaines, examiné à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs années, le débat sur ce sujet fait rage entre les uns et les autres et à l'intérieur de chacun. S'agit-il d'une rupture anthropologique ou d'une ultime et salutaire conquête de la liberté ? Je m'en remets, pour y voir plus clair, à la sagacité philosophique de Damien Leguay, auteur de « Quand l'euthanasie sera là » et de Raphaël Enthoven, qui est vigoureusement intervenu à plusieurs reprises sur cette question. Commençons avec vous, Damien Leguay. Vous écrivez dans votre livre « L'idée de l'euthanasie est bonne. Qui voudrait souffrir ? Qui ne voudrait pas s'abstenir de vivre dans l'indignité de situations inhumaines ? Mais les bonnes idées ne sont pas forcément de bonnes solutions. Expliquez-nous en quoi et pourquoi ce que vous reconnaissez vous-même comme une bonne idée s'avère, au bout du compte, une solution détestable, Damien Leguay.
Il se trouve d'abord qu'effectivement nous sommes dans une situation très particulière, c'est-à-dire que nous sommes au bord d'une loi. Et donc cette loi a été précédée d'échanges d'idées des uns avec les autres. Maintenant, on est dans une solution législative qui est imminente. Et donc, il me semble que là, effectivement, il faut réviser les idées que l'on peut avoir au regard de la loi. La loi, c'est quoi ? La loi, c'est une liberté que l'on se donne ou qu'on ne se donne pas, qui devient un droit opposable. C'est aussi un interdit qui devient licite et donc qui a une valeur positive.
L'interdit qui devient ici, c'est le tenu du rapport, c'est ça ?
Exactement. Et troisième chose, c'est une procédure. Et une procédure, ça veut dire aussi qu'il y a des conditions de la procédure, donc la loi pour l'instant, ou le projet de loi encadre ces procédures-là, mais avec un risque effectivement, et de dérive, et de procédures inhumaines qui ne tiennent pas compte de la relation particulière qui peut exister entre un malade et son médecin, la famille, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais indiquer sur ces bonnes idées qui ne sont pas forcément des bonnes solutions, c'est qu'effectivement, il me semble que nous avons un projet de loi tel que mis en avant par le président et par Mme Vautrin, qui est truffé d'euphémisme. Alors le premier, c'est la fraternité, et le deuxième, c'est l'aide à mourir, qui ne veut pas dire, contrairement à ce que le Conseil d'État lui a reproché, euthanasie et suicide assisté. Et Mme Vautrin et le président de la République ont bien dit qu'il ne s'agissait pas d'euthanasie et qu'il ne s'agissait pas de suicide assisté, alors que techniquement, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est ça dont il s'agit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble qu'il y a deux, trois risques quand même qu'il faut bien prendre en considération. La première, c'est est-ce qu'il s'agit de soulager des cas jugés aujourd'hui particulièrement inhumains ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intolérable ? Oui. Des souffrances inacceptables ? Oui. Des cas particuliers qui ne relèvent pas de la dignité ? Oui. Est-ce qu'il s'agit de s'occuper de ces cas-là ou d'aller toujours plus loin ? Deuxième sujet, il y a cette fameuse alliance thérapeutique dont parle Ricoeur et qui suppose qu'il y a quelque chose qui se noue entre le médecin, le patient et la famille. Est-ce qu'on va passer outre, considérant le refus fort de tous les membres des soins palliatifs, de cette alliance thérapeutique pour passer à autre chose ? Bonne idée qui devient une mauvaise pratique. Et troisième chose, et je m'arrêterai là, c'est que effectivement, ma question fondamentale, philosophique presque, est la suivante, c'est que est-ce que cette manière de mourir, est-ce que cette aide active à mourir va devenir, à terme, une façon comme une autre de mourir ? Je vais le dire autrement, on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 0,3% ou 1% de cas qui, effectivement, demandent de façon continue à mourir. 0,3%, 1%. Dans certaines régions des Pays-Bas, on est à 15%. Dans d'autres, on est à 6%, etc. Mais 15%. Comment est-ce qu'on passe de 1% à 15%? Est-ce qu'on est dans une loi d'exception pour régler des exceptions ou est-ce qu'on ouvre la porte à quelque chose qui va être à terme, c'est pour ça que ça me semble une mauvaise idée, qui va être à terme une façon comme une autre de mourir et donc de désinstitutionnaliser la mort, de continuer ce travail dont parle Marcel Gauchet de désinstitutionnalisation des différentes formes qui nous protègent et en particulier de la mort.
Raphaël Enthoven.
Oui, il y a plusieurs points. D'abord, le « tu ne tueras point ». Si tu ne tueras point était un interdit, personne ne serait moins obéi que celui qui le formule. Donc, tu ne tueras point n'est pas un commandement. Tu ne tueras point relève davantage du constat. Il est de dire, tu ne tueras point, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu ne vas pas tuer. Dieu lui-même est le plus grand des assassins. Non, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tuer, ça veut juste dire qu'en tuant, tu ne tueras pas tout. Il y a quelque chose que tu ne tues pas en tuant.
Donc, ça, c'est quand même une interprétation.
Reste que le tu ne tueras point, dire que le tu ne tueras point devient licite, c'est méconnaître le fait qu'il est licite depuis fort longtemps. Sans aller jusqu'à la Bible ou jusqu'à Dostoïevski, il est licite depuis fort longtemps, depuis l'IVG par exemple, ou bien la peine de mort. Ce sont des cas extrêmement différents qu'il faut appréhender différemment. Mais enfin, le tu ne tueras point n'est pas devenu licite ou ne s'apprête pas à le devenir. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas sacrée. Dieu merci, la vie n'est pas sacrée. La liberté est sacrée, oui, bien sûr. Mais la vie, non, elle n'est pas sacrée. Si la vie était sacrée, ça aurait quantité de conséquences éthiques et morales qui changeraient complètement la donne. On vit dans un monde où la vie n'est pas sacrée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idée de cette loi. C'est, il faut revenir sur la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La situation n'est pas celle d'un interdit, c'est celle d'un accord sans le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que la loi permet, c'est que la loi sur le papier interdit l'aide active à mourir et en pratique, nous fermons les yeux. Nous fermons les yeux sur ceux qui arrivent à l'obtenir en France, qui meurent en lousdé, qui meurent en catimini, qui meurent en cachette, au titre d'exception dont la loi ne devrait pas s'occuper. Et nous fermons les yeux sur le fait que ça devient un privilège de nanti, puisque pour mourir comme on le souhaite, il faut partir et payer ailleurs. Donc il faut s'expatrier pour mourir. La situation, c'est celle-là aujourd'hui. Autrement dit, en l'état, la loi ne règle pas tous les problèmes. Il y a quantité d'exceptions qui sont autant de scandales que la loi doit prendre en charge. C'est exactement, pour le coup, la même situation qu'avec les faiseuses d'anges dans les années 70, avant que la loi Veil n'intervienne et n'y mette bon ordre. La question de la bonne idée qui devient une mauvaise pratique est une objection très, très intéressante. Reste que le mauvais usage d'une liberté ne me paraît pas un argument recevable contre l'attribution de cette liberté. Prenons d'autres libertés, encore une fois, la liberté d'avorter par exemple, on peut à bon droit considérer qu'elle a produit des comportements irresponsables, certes. Mais les comportements irresponsables induits par l'attribution de cette liberté ne sont pas un argument suffisant contre l'attribution d'une telle liberté. C'est le drame démocratique. La démocratie est grande de nous permettre d'être médiocres, de nous permettre d'être égoïstes. Les libertés qu'elle nous donne, nous pouvons en faire mauvais usage. Si tout le monde en fait mauvais usage, la démocratie dépérit. Et il faut souhaiter le contraire. Néanmoins, le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre son attribution. Et enfin, le dernier point, ce que j'appellerais, alors je ne veux pas trahir votre pensée, le risque normatif en somme. L'idée qu'une loi d'exception devienne une loi de confort. D'abord, je ne vois pas la différence entre loi d'exception ou loi de confort. Quand on autorise quelque chose, on l'autorise. Il ne s'agit pas de dire on l'autorise, sauf si c'est pour votre confort que vous le demandez. C'est pas comme ça que ça marche. On l'autorise parce que c'est un droit. La République ne sonde pas les cœurs et les reins. Mais surtout, c'est présumer que le fait d'accorder un droit est aussi le fait de promouvoir un comportement. Et il y a là un basculement dans le raisonnement qui me paraît fautif. Accorder un droit, ce n'est pas promouvoir le comportement qui va avec. Prenons le mariage pour tous. Accorder aux homosexuels le droit de se marier entre eux, puisque de fait c'était ça qui se passait. Accorder ce droit-là, ça n'était pas promouvoir le mariage homosexuel ou inviter les gens à se marier avec des personnes de même sexe. Il ne faut pas confondre l'attribution d'une liberté avec la promotion d'un comportement.
Alors, je voudrais dire un mot. Simplement, je ne suis pas absolument sûr que le tu ne tueras point soit un constat. C'est un interdit qui est transgressé depuis les origines de l'humanité.
Par Dieu lui-même.
Il n'empêche que c'est un interdit. C'est au nom d'ailleurs du tu ne tueras point que la peine de mort a été abolie. Ouais. C'est aussi au nom du tu ne tueras point que
l'avortement... La peine de mort, c'était pas au nom du tu ne tueras point.
Chez
Robert Badinter, ça n'était pas dans son argumentaire. Le tu ne tueras point, ça n'était pas l'idée. Il n'y avait pas l'absolu, la sacralité de la vie au principe de ça. C'était pas le cœur de son argumentaire.
Mais en tout cas, même les limites à l'avortement
relève du tu ne tueras point. C'est, il y a un moment où l'embryon est déjà considéré comme un être vivant, et donc cela relève de l'infanticide, et on arrête. C'est le sens de la loi Veil. Mais je vous laisse la parole.
Non, mais c'est juste parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Alors je reviens sur une discussion que Raphaël Antoven nous avait eue avec Raïm Korsia, sur cette explication biblique, sur effectivement tu ne tueras pas, où lui dit que en hébreu, il ne s'agit pas de dire tu ne tueras pas, mais tu n'assassineras pas. Mmh. Voilà. Différence absolument fondamentale qui exclut l'interprétation qui supposerait effectivement que le tueur. J'ai pas fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, vous avez bien
entendu. C'est une nuance qui exclut de fait l'euthanasie ou l'aide à mourir de l'ordre de l'assassinat. Si on retient cette nuance, on peut considérer que le médecin qui aide à mourir n'assassine pas dans ces conditions. Puisqu'on fait cette nuance, je salue cette nuance. Si on salue cette nuance, Camus aussi, oui, lui-même faisait des différences entre les meurtres. Saluons cette nuance et considérons dans ces conditions qu'un médecin qui aide à mourir n'assassine pas. D'ailleurs, il prend du sursis.
Ce qu'on peut dire, parce que je vais juste répondre à un certain nombre de choses. Pardon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'interdit de tuer, quelle que soit la forme que ça a, ou quelle que soit l'origine que ça a, fait partie, disons, des référents anthropologiques qui traversent toutes les sociétés et qui peut être considéré comme étant transgressé par cela. Alors après, on peut toujours justifier, trouver des raisons, trouver que ceci, trouver que cela. Je voudrais reprendre un certain nombre de points parce que vous avez donné tous les éléments d'argument qui supposeraient qu'on puisse répondre point par point. Alors, dire que la vie n'est pas sacrée, j'entends ce que vous dites, mais le problème, c'est que quand on dit ça, on met un terme, et je comprends que vous êtes bien plus moderne que moi, on met un terme à Kant, on met un terme à l'idée qu'il y a une dignité a priori des personnes qui est indiscutable, sur laquelle on ne peut pas revenir. Le problème de cette loi et de cette bonne idée qui devient effectivement, c'est qu'on va commencer à rentrer dans une procédure qui suppose que la dignité est une dignité à point, une dignité qu'on va évaluer, une dignité qui suppose qu'on va dire est-ce que d'une façon ou d'une autre j'entre ou j'entre pas dans la dignité qui suppose que je puisse continuer à vivre ou qui suppose que je ne puisse pas continuer à vivre. Mais je voudrais surtout insister sur un point qui est au cœur de ce que vous dites et qui est quand même absolument fondamental et qui me semble complètement faux, qui est l'idée de dire qu'une loi est un droit que l'on donne à quelqu'un et qui ne retire ou qui n'apporte rien ou qui n'ajoute rien ou qui n'a pas d'effet sur les autres. Là, en l'occurrence, si, un droit qui est donné et qui n'a pas d'effet de contagion, si on veut, sur les autres.
Non, j'ai dit que l'attribution d'un droit n'était pas la promotion d'un comportement. C'est tout.
C'est ce que je dis. Donc je dis simplement qu'il y a deux choses qu'il faut dire. Un, on connaît, les sociologues connaissent ce qu'on appelle l'effet Werther, c'est-à-dire l'effet de promotion du suicide par ceux qui se suicident. Il y a un effet de contagion du suicide par ceux qui se suicident. Donc il y a bien des effets de résonance. Deuxième chose, il faut bien prendre en considération, c'est là où c'est important, c'est que cette liberté individuelle qui est mise en avant par vous comme étant le critère absolu de ceux qui peuvent d'une façon ou d'une autre choisir, enfin d'en passer par l'aide active à mourir, il y a une construction que tous ceux qui pratiquent les soins palliatifs connaissent bien, une différence entre la demande de mourir et la volonté de mourir. Il faut qu'à un moment donné, la volonté de mourir soit la plus importante. Troisième chose qui est la plus importante, c'est Tocqueville. Tocqueville nous dit bien qu'en régime démocratique, la démocratie, les démocrates ont une répugnance pour les formes, mais que la forme est une barrière entre le fort et le faible. Et qu'en démocratie, c'est-à-dire en régime d'égalité, ce qui est notre cas, il y a un effet de crédulité de l'homme démocratique. Donc l'homme démocratique s'en remet de plus en plus, c'est ça ce que dit Tocqueville, au jugement public. Donc à l'opinion commune. Donc à cette tyrannie de l'opinion qui a un effet sur lui. Et on voit bien, quand Tocqueville met en avant un despotisme à craindre, c'est celui-là. C'est celui de la majorité. C'est celui donc du licite. Et on voit bien que dans les différents pays en question, toujours, il y a eu un effet de contagion de cette liberté accordée à certains cas qui s'est propagée auprès des autres.
Raphaël Antoven.
J'adore cette discussion. D'abord, je veux saluer cette discussion. J'ai grand plaisir à débattre de toutes ces idées, à mettre la vérité en partage. C'est assez rare, en somme. Je salue l'existence de ce débat. Sur la question de la dignité, il y a deux définitions, pour le dire rapidement, de la dignité. Une définition absolue, l'irréfragable dignité de l'individu humain. Une dignité qui n'est pas entamée naturellement par l'état du corps. Vous n'êtes pas moins digne, vous n'avez pas moins de dignité quand votre corps vous lâche. Et par conséquent, cette dignité-là n'est pas entamée. Et nous sommes bien d'accord pour dire qu'il y a là une dignité absolue. Reste que
D'autres, en particulier quand ils sont malades, ou quand ils en sont là, se font une idée plus terre-à-terre de la dignité. Voyez, ils ont le sentiment que la dignité dépend aussi du fait de ne pas être impotent, ou de ne pas devenir un légume, ou de ne pas s'enfermer à l'intérieur de soi. Bref, on donne une définition plus concrète. C'est comme la Vénus céleste et la Vénus anadiomène. Il y a les deux dignités, la dignité céleste et la dignité anadiomène, celle qui va avec les excréments. Et cette deuxième définition de la dignité me paraît très importante à faire entrer dans le calcul et dans le désir de mourir. Deuxième point, en disant que la vie n'est pas sacrée, je ne suis pas plus moderne que vous, je suis plus antique que vous, puisque je me réfère à une tradition qui précède, en l'occurrence, la sacralité de la vie, c'est-à-dire ce que je fais remonter au christianisme, et qui, en ce qui me concerne, remonte au stoïcisme, c'est-à-dire en amont du christianisme. Je suis plus antique que vous, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'absolutiser l'existence, de considérer que la vie est un fardeau qu'on n'a pas choisi de porter mais qu'on porte jusqu'à son terme, pour le dire rapidement, mais qu'il s'agit de se construire une vie bonne, et dans la construction de cette vie bonne, si le fait d'en partir paraît la meilleure option à l'heure où nous nous trouvons, alors il faut en partir. Ce sont les stoïciens qui pensent comme ça. Il est aussi grave d'empêcher quelqu'un de mourir que de le tuer, disait Sénèque. Le troisième point, pardon, c'est cette différence que vous faites entre la demande à mourir et la volonté de mourir. Oui. Ça me fascine un peu. Ça me fait penser, je crois que j'ai compris aussi.
Non, mais
ça me fait penser aux gens, vous savez, qui disent, quand vous émettez un désir que les gens n'ont pas envie d'entendre, ils vous disent, oui, mais je sens que c'est pas ça que tu penses au fond. Moi qui suis à ton écoute, je sens bien qu'au fond ton vrai désir n'est pas celui-là. Je t'écoute tellement que je n'écoute pas ce que tu me dis. Il y a des gens qui demandent à mourir et à qui l'on répond « Mais non, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Ton désir de mourir est soluble dans l'amélioration des soins. Tu vas voir, ça ira mieux demain. » Et nous n'écoutons pas tout en se flattant d'écouter. Ça donne des scènes, mais qui sont quasiment des scènes de cinéma. Sur la surdité des gens qui se flattent d'écouter les autres. Et enfin, sur Tocqueville, pardonnez-moi, l'interprétation que vous donnez de la tyrannie de la majorité n'est pas exacte. La tyrannie de la majorité chez Tocqueville est un processus démocratique par lequel, à l'abri de la loi, l'opinion elle-même fait la loi. Que décrit-il ? Il décrit des gens qui, proférant des opinions dissidentes, dissonantes, notre Alain Finkielkraut saura de quoi je parle, proférant des opinions dissidentes ou dissonantes, se voient non pas punis par la loi, mais bannis par la majorité, on leur retire leur titre d'humanité, vous perdrez vos droits à l'humanité, dit Tocqueville, quand il décrit la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est le processus par lequel une horde exclut une parole dissidente. En aucune façon, ça ne s'applique à l'échelle d'un État, en particulier parce que la tyrannie de la majorité n'a rien à voir avec la loi. Il commence même comme ça, puisqu'il dit « c'est un oxymore si c'était la loi, puisque la majorité gouverne, elle ne peut pas être tyrannique ».
Je voudrais citer Pierre Manin, qui va un peu dans le sens de Damien Leguay, et sinon d'une tyrannie de la majorité, d'une pression qui pourrait être celle de la société. Pierre Manin, dans Le Figaro, dit ceci. La loi qui autorise est nécessairement une loi qui encourage. Non seulement elle entame la confiance du malade dans les soignants, mais elle blesse la confiance déjà fragile qu'il a dans son droit à vivre. Combien de vieilles personnes se sentent déjà une charge pour leurs proches ? Est-ce vraiment un progrès de la fraternité que de leur suggérer, en leur ouvrant cette liberté, que leur devoir serait peut-être de soulager les proches de cette charge ? Et dans le même sens, Peter Singer, le célèbre philosophe animaliste, va jusqu'à dire « Au stade avancé de la démence, les malades ne sont plus à proprement parler des personnes, il est donc légitime de les euthanasier. » Et le Journal of Bioethics américain, des personnes sur le point de perdre leur identité morale, ont le devoir de se supprimer afin d'éviter à leurs proches un lourd fardeau émotionnel et financier. Mais, et là je voudrais poser une question à Damien Leguay, dans un autre sens, parce que le débat fait rage, mais à l'intérieur de moi, si je puis dire, je voudrais vous citer brièvement une tribune parue dans Le Monde, il y a 2 ans, je crois, de Paul Bernard, haut fonctionnaire qui a été conseiller auprès de François Hollande à l'Élysée de 2012 à 2014. Sa femme, il ne le dit pas dans la tribune, mais cette expérience nourrit sa réflexion. Sa femme a été atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle est morte, laissant un veuf éploré et des enfants en bas âge. Et il dit ceci. Mourir de maladie n'est pas s'éteindre comme une bougie, c'est avoir mal, c'est perdre le contrôle de ses organes, c'est souvent, très souvent, une débâcle d'asphyxie et de diarrhée. il dit, dans les affections qui atteignent le cerveau, pour lesquelles l'imagination n'est pas prête, le vocabulaire a son importance, ces malheureux n'ont peut-être rien perdu de leur dignité, mais ils ont tout perdu de leur liberté. On dit, chaque heure, chaque minute de vie vaut d'être vécue. Quand on a vu quelqu'un pleurer pendant des semaines de souffrance physique et de détresse morale, passer de l'état de sujet à l'état d'objet, devenir paralysé, aphasique, incapable même de reconnaître les siens, on sait qu'il arrive un temps où la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, on le sait. Et il finit en disant, on n'a pas le choix entre mourir et ne pas mourir, tout le monde meurt, l'aurait-on oublié. Mais, ajoute-t-il, l'alternative n'est pas entre la vie et la mort, mais entre deux morts, l'une choisie dans la paix, l'autre subie dans la torture. La question, si largement ignorée, et qui peut être le cœur du débat, c'est précisément la question de la trace que veut laisser le mourant, de l'image qu'il souhaite que garde lui ceux que lui survivront. À mesure que le deuil, cette absence, laidera sa place au souvenir, cette présence. Rendre légal l'euthanasie active, ce serait ouvrir à des millions d'infortunés un horizon de sérénité, ce serait faire en sorte que dans la fin de vie, la vie l'emporte sur la fin. Qu'en pensez-vous, Damien Le Guay?
Mais c'est évident que le confort de vie, la qualité de la vie sont des éléments ô combien indispensables pour avoir une vie la moins douloureuse possible. Et tout ce qui est fait dans les soins palliatifs, dans l'accompagnement et dans le soulagement de la souffrance, conduit à cela, c'est tout à fait évident. Je veux revenir sur trois points, qui est celle de Tocqueville. Tocqueville, je me permets de citer, parce que on peut croire que j'interprète mal, mais enfin Pierre Manant, qui est effectivement grand tocquevillien devant l'éternel, irait dans ce sens-là. Tocqueville dit « Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public. » Donc la confiance presque illimitée dans le jugement du public, c'est qu'il y a un effet de contagion de ma conviction personnelle. Il oppose là, disons, l'homme aristocratique et l'homme démocratique. L'homme aristocratique, c'est celui qui a une morale hétérogène, qui vient d'ailleurs et qui lui permet de s'opposer. Et l'homme démocratique, c'est celui qui est influencé par le jugement des autres. Donc c'est bien ce que nous constatons, c'est bien cette confiance presque illimitée dans le jugement des autres qui a un effet, dit-il, de despotisme à craindre, je le cite, et ce pouvoir immense et tutélaire qui va réglementer la vie des gens dans le détail. La deuxième chose, c'est cette histoire de dignité. Et vous avez absolument raison, il y a un conflit de dignité, évidemment, entre la dignité que l'on m'accorde et qu'il importe que la société m'accorde a priori de façon inexpugnable, d'où le caractère kantien, ou d'où le caractère chrétien que vous remettez en cause.
Non, pas du tout.
Si, si.
Non, je remets en cause la sacralité de la vie, pas la dignité de l'individu. C'est au nom de la dignité de l'individu que je remets en cause la sacralité de la vie.
Si je peux juste finir mon raisonnement, parce que sinon...
Mais oui, mais la prémisse est fausse.
Je finis. Donc cette histoire de conflit, vous avez absolument raison, il y a un conflit de dignité, ça c'est vrai, entre la dignité que l'on m'accorde et la dignité que je ressens, moi, dans les situations où mon indignité est patente. D'où l'insistance sur l'intersubjectivité de Ricoeur, sur ce « me voici » de Lévinas, cette possibilité d'être là et d'accompagner. Le conflit en soins palliatifs, il est là, entre quelque chose qui m'est donné et qui est considéré comme étant altéré par ma situation et ma situation
oui,
et droit conquête.
Damien Le Guay, vous ne répondez pas à Paul Bernard, ni la loi Leonetti, ni les soins palliatifs ne s'appliquent à la souffrance dont il parle. Et en plus, c'est pas une manière de succomber au jugement du public que de dire que cette femme devait avoir la liberté de mourir dans une certaine sérénité plutôt que de souffrir comme elle a souffert et en plus de laisser ses proches dans une douleur totale.
Qui est pour la souffrance? Qui est pour souffrir? Personne. Donc, si je peux me permettre juste de rebondir là-dessus, je dirais deux choses. La première, c'est que je vais vous poser une question à vous deux. Quelles sont les conditions que l'on peut mettre en avant pour donner droit à une demande de mort? Je rappelle un chiffre. Il y a en France 200 000 tentatives de suicide par an en France. 200 000. Est-ce que les 200 000, vous dites, ah ben très bien, allons-y, les gars, il y a une demande de mort, allons-y. Ou est-ce qu'il faut effectivement lutter contre cela? Donc c'est une vraie question. Est-ce que tout le monde est éligible à la procédure? Pour l'instant, la loi encadre, le projet de loi encadre. Est-ce qu'on dit, mais toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, toutes les situations d'animité, quelles qu'elles soient, suppose qu'on puisse avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. C'est la limite, c'est la question de la limite.
Je ne suis pas législateur, mais ça me paraît évident, il n'y a en aucune façon question de valider ou d'avaliser toute demande, de légiférer sur toute demande d'en finir avec la vie. Ce n'est pas l'enjeu de cette loi. Non, ce n'est pas l'enjeu de cette loi. L'enjeu de cette loi, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui meurent en cachette pour avoir le droit de mourir comme ils voudraient. Il y a des gens qui se cachent pour mourir. Il y a des gens qui s'exilent pour mourir. Il y a des pathologies épouvantables que les gens doivent endurer et dont ils doivent offrir le spectacle au lieu de mourir conformément à leurs souhaits. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui feignent de vous écouter, mais qui n'écoutent jamais votre envie de mourir, qui considèrent qu'elle n'est seulement dictée par un manque de soins. La vérité aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des exceptions, comme on dit, des exceptions qui ne sont pas solubles dans l'excellence des soins palliatifs, parce que le désir d'en finir n'est pas soluble dans l'excellence des soins, et que donc il y a des gens aujourd'hui qui veulent mourir et qui n'y parviennent pas alors qu'ils sont en fin de vie et qu'ils souffrent. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de conflit de dignité, leur dignité est totale. En l'occurrence, il y a juste un système qui repose sur une mauvaise foi fondamentale qui consiste à dire, voilà, en vous donnant le droit de mourir dans la dignité, en réalité, la société organise votre esseulement, et puis une fois qu'elle a organisé votre esseulement, elle présente comme la signature flatteuse de votre liberté la demande faite de mourir. Et donc, il y a l'idée qu'en somme, notre société mortifère, barbare, organise la mort pour se débarrasser des éléments improductifs, et que donc elle facilite le départ des individus en leur facilitant la tâche et en présentant cela comme la signature de leur liberté.
Mais est-ce que c'est pas un risque, ça ?
Je ne vois pas de charnier de vieillard dans le Benelux. Je ne vois pas de génocide de vieux dans les pays où une telle chose est accordée. Il faut arrêter de fantasmer sur cette histoire. Toutes les dystopies, Soylent Green, avec Charlton Heston, est celle qui a le moins de chances d'advenir. Nous ne sommes pas en train d'organiser un système où l'on se débarrasse des vieux. J'en veux pour preuve la politique gouvernementale au moment du Covid. Le quoi qu'il en coûte consistait à dépenser beaucoup d'argent pour sauver des gens qui n'avaient aucune productivité, qui étaient ce qu'on appelle des éléments improductifs. Donc nous ne sommes pas dans l'organisation d'un holocauste de vieillards qui tairait son nom. On n'est pas en train d'organiser ça. C'est pas ça qui se passe.
Faut pas inventer des fantasmes non plus.
Non. On est en train d'accorder une liberté dont le refus pour l'heure est inexplicable. Alors, un monde où l'on accorde la liberté d'avorter monde où l'on doit avoir la liberté de mourir.
Est-ce que je peux répondre une seconde? Je trouve il faut mesurer quand même ce que vous venez de dire. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu injurieux. Quand vous dites on n'entend pas, on maintient ce système, je trouve un peu injurieux pour tous ceux qui depuis 30 ans ou 35 ans en France pratique les soins palliatifs.
Non, mais j'ai pas.
Mais vous dites. C'est ça dont on parle.
La question est de savoir, Damien Le Guay, si des soins palliatifs sont une alternative à l'euthanasie. Tout le monde approuve les soins palliatifs, mais on peut se poser de la question de savoir si, dans tous les cas, c'est la réponse à donner à ce désir de mourir. Non, c'est ça la question.
Mais non. Je peux me permettre de faire deux réponses. La première, c'est de considérer, effectivement, je pense que il faut mesurer le caractère ambivalent des demandes. Il faut mesurer le caractère ambivalent de ce que nous sommes face à la mort, face à la souffrance, face à la difficulté. Donc ne croyez pas que tous ceux qui sont soins palliatifs écoutent sans entendre, disent « cause toujours, tu m'intéresses, mais tu vas voir ce que tu vas voir ». Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut quand même mesurer
ce travail. J'ai pas dit que tous le faisaient. Je dis que ça arrive. Je dis que des gens qui ont envie de mourir se voient répondre par des gens pleins de bienveillance « mais non, tu n'as pas envie de mourir » et que ce dialogue est odieux.
Ça arrive. Là, on parle d'une loi, on ne parle pas d'un cas particulier, on dit « ça arrive ». Ok, première chose. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération, vous dites « mort en cachette, partir à l'étranger ». Il y a 15 personnes ou 30 personnes qui partent en Suisse, 50 qui partent en Belgique, sur 650 000 personnes qui meurent par an en France. Là, c'est vraiment, vraiment des exceptions.
Donc ça veut dire que... Quelle valeur accordez-vous à ces exceptions?
Mais je dis simplement qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui. C'est la réponse que je voudrais faire à Nafik Lecointre.
Manifestement pas aux yeux des gens qui s'exilent pour mourir.
Oui, d'accord. Mais peut-être qu'ils veulent autre chose.
Ils veulent autre chose.
Oui, non,
ils veulent mourir.
C'est-à-dire que
ils veulent avoir le droit de mourir. Ils ne l'ont pas en France. C'est pas très compliqué.
C'est la question, effectivement, de qui est éligible ou qui n'est pas éligible.
Alors, justement.
Si toute demande est éligible et qu'à ce moment-là, on ne rentre pas dans les critères de la loi et qu'on ne respecte pas la loi, à ce moment-là, on dit, très bien, toutes les demandes sont éligibles.
Et dernier... Prenons la maladie de Charcot, si vous voulez. par exemple.
Sauf que les gens qui sont malades de Charcot, il y en a 8000 en France, sont horripilés qu'on les instrumentalise comme ça, en disant tout le temps la maladie de Charcot. La maladie de Charcot ne demande pas non, ça pour l'essentiel. Mais je vous le dis, moi. Je vous dis que tous ceux qui représentent ceux qui souffrent de la maladie de Charcot...
Je vous parle de quelqu'un qui est malade de la maladie de Charcot. Une personne.
Je vous dis simplement que arrêtons d'instrumentaliser comme on le fait depuis des mois la maladie de Charcot. Les gens demandent surtout des soins. Et il y a un autre point, et je terminerai là-dessus. Pour la maladie de Charcot, il y a ce qu'on appelle le disability paradoxe, souligné par le CCNE, c'est que la qualité de vie déclarée, je ne parle pas, comment est-ce que je me sens dans ma vie, et est-ce que la vie est belle, ou est-ce que je suis heureux de vivre? La qualité de vie de ceux qui sont en maladie de Charcot est supérieure aux autres Français. Donc arrêtons d'instrumentaliser
la maladie de Charcot. On n'instrumente pas la maladie de Charcot. Je connais des cas de gens atteints de la maladie de Charcot, qui au moment où ça devenait de plus en plus insupportable, ont choisi, parce qu'un médecin les y a aidés, la mort. C'est pas une instrumentalisation. Et je vais aller plus loin. Mais parce que, pour ouvrir la possibilité de demander une aide active à mourir, il faut être majeur, capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, être atteint d'une affection incurable, engageant le pronostic vital à court et à moyen terme, éprouver enfin une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection. Autrement dit, sont exclus de l'aide active à mourir, les maladies neurodégénératives.
Exactement.
Vous trouvez ça très bien. Vous avez salué Damien Le Guay. Alors moi, je vais dire un mot de la maladie d'Alzheimer.
C'est compliqué.
Michel Malherbe, philosophe que vous connaissez, dont la femme a été atteinte.
Qui a tenu le registre de la perte de mémoire de sa femme.
Voilà. Et plus encore qu'une maladie, il parle de l'Alzheimer, c'est le mal ayant installé dans le vivant ses quartiers, le vivant se défait inexorablement, il est touché jusque dans son intégrité d'individu et sa dignité d'être responsable. Et je voudrais vous lire ici l'extrait d'une lettre envoyée à son médecin par une femme atteinte de cette maladie. « Je vis sans espoir, sans passé, sans mémoire, sans avenir. J'ai la maladie d'Alzheimer, je perds peu à peu la parole, je meurs un peu chaque jour, je n'appartiens pas à un dieu, je suis libre, je pense au suicide assisté, j'ai fait mes demandes parce que je suis fatigué, j'ai fait mon devoir envers la société, tout le monde peut attraper Alzheimer, riche ou pauvre. » Et dans une carte postale envoyée un peu plus tard, cette femme, au bout du rouleau, écrit au médecin que s'il n'accepte pas sa demande, elle essaiera de s'écraser contre un mur avec sa voiture. Et vous citez Damien Le Guay, Claire Fourcade, qui est présidente, je crois, de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui dit « Donner la mort, c'est faire mourir le médecin ». Moi, je pense, je me demande en tout cas, si le médecin qui n'accepte pas à une telle demande fait preuve de cruauté et non pas de miséricorde. Il ne remplit pas, à mon avis, son devoir médical parce qu'on ne peut pas aider à vivre. Alors il faut avoir l'humilité d'aider à mourir, me semble-t-il, notamment pour ces cas de dégénérescence sénile.
Pour aller dans le sens de ce que vous dites, Alain Finkielkraut, je me souviens d'une discussion avec Michel Houellebecq sur cette question. Michel Houellebecq, très hostile à l'aide à mourir, et à qui je demandais, mais que faites-vous dans le cas de figure où la personne que vous accompagnez, que vous suivez, que faites-vous quand elle vous demande à mourir? Et que faites-vous quand, malgré tout l'amour dont vous l'entourez, elle persiste à vouloir mourir? Que faites-vous d'un désir de mourir qui n'est pas soluble dans l'excellence des soins que vous lui accordez? Réponse de Houellebecq, je refuse. Je dis, comment vous pouvez refuser? Je dis, je refuse parce que si elle demande à mourir, ça veut dire que je ne l'aime pas assez. Ce raisonnement n'a aucun sens.
C'est pas le mien.
Non, je sais que c'est pas le vôtre. Bon, ouais, mais je vous faisais pas le reproche de penser comme Houellebecq. Je dis juste, c'était pour aller dans le sens du témoignage que je viens d'entendre. Ce raisonnement n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens, de façon générale, à opposer le bien vivre au bien mourir. C'est-à-dire, il n'y a aucun sens à opposer les soins palliatifs à la liberté de mourir, puisque donner la mort, c'est le soin par excellence. C'est la liberté par excellence que de le demander, et le donner, c'est le soin par excellence. Dosage, accompagnement, écoute, conseil,
présence au service d'une demande consciente. Je veux dire, les gens qui disent que donner la mort n'est pas un soin, mais qu'est-ce qu'un soin alors ? Donner la mort à la personne qui le demande, c'est le soin par excellence, et d'ailleurs en général, ceux qui s'en indignent sont bien aises d'en profiter le jour dit. Donc la question que sous-entend le refus de penser contre toute évidence, qu'un tel geste est un soin par excellence, et c'est ça qui me paraît fascinant, moi. Je ne comprends pas comment on peut argumenter dans le sens de l'idée que donner la mort ne serait pas un soin.
C'est intéressant parce que Houellebecq, son dernier roman, qui est très fort d'ailleurs, ouais. Anéantir, met en scène un personnage qui, après un très grave accident vasculaire, se réveille paralysé et il a perdu l'usage de la parole. Il doit aller dans un hôpital, mais un groupe militant l'arrache à cette institution de peur que, justement, les médecins recourent à l'euthanasie. Mais, précisément, Houellebecq se facilite la tâche parce que son personnage, très diminué, continue à lire, à écouter de la musique et peut, malgré son aphasie, communiquer avec ses proches. Il ne tombe pas progressivement et inexorablement dans l'habitude, c'est-à-dire pas plus que la mort, l'Alzheimer ou toutes les maladies neurodégénératives ne se peuvent regarder fixement. Et je le dis, je le répète, ces maladies, les malades, au début, sont très conscients. C'est ce que dit Rezvani, si vous voulez, à propos de sa femme Lula, l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. Que répondre à cet immense chagrin ? La loi ne veut pas s'en préoccuper.
Exactement.
Elle ne veut pas s'en préoccuper. Hein. Il me semble qu'il y a là, sinon une lacune, du moins un problème, Damien Leguet.
Alors, il y a plusieurs choses, hein. Je vais essayer de répondre à tout ça. On considère que pour les maladies de Parkinson, il y a à peu près 300 000 en France. Alzheimer, il y en a 900 000. Hein. Ça fait 1,3 million de personnes. Bon, c'est toujours la question que je vous ai posée, mais auquel vous ne répondez pas, qui est de savoir qui est susceptible de faire la différence entre une liberté que l'on se donne et un droit qui vous est reconnu. Là, en l'occurrence, on parle d'un droit qui est reconnu par l'État, qui, par les médecins, vous donnerait une injection létale vous permettant de mourir. Donc la question, c'est quelle limite est-ce qu'on donne à ça ? Ou est-ce qu'on considère que tous ceux qui le demandent, pour quelque raison que ce soit, finissons. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc la question, c'est la limite. Est-ce qu'on dit, tout le monde y a le droit parce que tout le monde a sa souffrance, parce que tout le monde a des souffrances réfractaires, parce que tout le monde est susceptible d'eux, et donc l'État est capable de répondre à cela plutôt que de considérer l'ambivalence, la difficulté, etc. Bon, voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, quand vous dites « donner la mort est un soin », bon, moi, je veux bien.
Non, c'est le soin par excellence.
Voilà, le soin par excellence, c'est pareil.
Oui.
Le soin par excellence, très bien. Ouais. Moi, je dis simplement la chose suivante. Je veux dire, cette opinion, vous l'avez. Mm-hmm. Vous avez parlé de Claire Fourcade. Claire Fourcade, l'ASFAP, 10 000 soignants, 7 000 bénévoles. Mm-hmm. Ils ont fait des enquêtes. Qu'est-ce que les soignants qui sont sur le terrain, qui n'ont pas des opinions, qui ont une expérience, qui ont accompagné 2 000, 3 000 personnes, qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi est-ce qu'ils sont contre ? Pourquoi est-ce qu'ils disent que si jamais cette loi venait à être, ils le font par quoi ? Par idéologie ? Par sadisme ?
Pourquoi sont-ils contre, alors ?
Voilà, justement, c'est ça la question. Mm-hmm. Réfléchissons à ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre ?
Pourquoi sont-ils contre ?
Je vais vous expliquer. C'est juste parce qu'il ne faut pas leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas au regard d'idéologie qu'ils auraient, qu'ils voudraient faire souffrir, etc. Donc quand ils disent qu'ils vont soit démissionner 30%, soit qu'ils sont à 90% contre le fait d'injecter une solution létale, parce que l'idée qu'ils se font du soin est un soin d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas. Alors, c'est pour ça une petite précision technique. Il y a deux choses. Il y a une chose qui existe et une possibilité. Parce que le problème, c'est l'euthanasie. Ce n'est pas le suicide assisté, c'est l'euthanasie. Donc, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Un, existe aujourd'hui, Ryan Corcia vous l'avait dit, la sédation profonde et continue. Loi Claeys.
Une semaine ou deux semaines avant la mort. Donc, ça ne tient pas compte de toutes les douleurs donc, que je vous ai exposées.
Si la loi Claeys répondait ou satisfaisait toutes les demandes aujourd'hui, il n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait pas de discussion. Si la loi Claeys ne posait pas de problème aujourd'hui, si pour Vincent Lambert, Vincent Humbert, Laurent Bouvet, Maya Simon, Anne Baer, c'était pas un problème, on n'aurait pas de débat. Si la loi Claeys couvrait ce genre de tragédie, il n'y aurait pas de problème.
Vincent Lambert n'a rien à voir avec ça. Rien. Donc c'est pas du tout dans la loi. Et rien à voir avec ça, c'est un conflit de famille pour savoir qui le représente, c'est tout.
Oui, bien sûr. Donc, ça n'est que ça.
Ben non, c'est vrai.
Bon, enfin, écoutez,
10 ans de procédure, et j'ai écrit 15 articles là-dessus, je peux vous dire que c'est une question de qui le représente. Première chose. Deuxième chose, quand même, qu'il faut prendre en considération, je peux me permettre quand même, hein, c'est que là, effectivement, je suis d'accord. Quand on dit la sédation profonde et continue, on en revient à la question, c'est qui est éligible? Moi, je veux bien qu'il y ait des cas particuliers aussi, mais qui est éligible? À qui est-ce qu'on
vous l'a dit?
Non.
On vous l'a dit tout à l'heure, on a lu le texte de la loi.
Qui?
On vous l'a dit tout à l'heure, les conditions dans lesquelles le droit à mourir était accordé. Mais bien sûr que oui, dans la mesure où les choses sont encadrées par la loi.
Et bien, Alzheimer n'est pas dedans.
On vous l'a dit tout à l'heure.
Donc Alzheimer n'est pas dedans.
Charcot n'est pas dedans.
Charcot n'est pas dedans.
Non, mais moi, je suis pas d'accord.
Je ne dis pas que je suis d'accord avec le contenu de la loi tel qu'il est aujourd'hui.
C'est ce que je dis.
Non, parce qu'il y a des amendements, il y a des choses à améliorer. Les maladies neurodégénératives notamment, etc. En revanche, il y a pour l'heure, ce qui est très beau, une ambition législative, un cadre naissant à l'intérieur duquel, qui balaye, pardon, l'objection selon laquelle désormais c'est la foire à la mort et tout le monde pourra mourir à tout âge et à la seconde où on aura envie de le faire. Cet argument-là, pardon, ne tient pas en fait. C'est comme l'argument de la loi Claes-Leonetti face à des gens qui...
La loi Claes-Leonetti, parlons-en parce que je trouve ça absolument scandaleux.
C'est une loi scandaleuse.
Je parle pas de... Ah bon?
Ben oui, c'est une loi.
C'est une loi très restrictive quand même, Damien Le
Guay. Incroyablement restrictive.
Non mais Raphaël Altonen,
Faut
quand même mesurer ce que vous dites
sur
le fait de dire que la loi Claes-Leonetti, qui est un miracle juridique, d'éthique et d'accompagnement, est un... Vous avez dit quoi?
Un scandale.
Un scandale.
J'appelle scandale une loi qui ne couvre pas des cas comme ceux précisément...
Forcément que tous les cas ne sont pas compris dans la loi.
Et pourquoi ça, s'il vous plaît?
Pourquoi faudrait-il?
Et pourquoi ça?
Donc
on fait quoi? Donc les exceptions, on fait quoi? Les gens qui persistent à vouloir mourir,
je suis d'accord.
Mourez, mais que la loi s'en occupe pas. Vous mourrez tranquille, dans votre coin,
c'est ce que je vous dis.
On ne veut pas le savoir.
C'est ce que je vous dis. Vous ne voulez pas d'exception.
Mais je ne veux pas d'exception, non?
Voilà, c'est
non,
ce que je
ne veux pas d'exception.
Donc,
bien sûr que je ne veux pas d'exception.
Donc vous
voulez quoi?
Le cadre actuel de la loi suppose qu'il y ait des contraintes. C'est une question de droit, c'est une question d'État, c'est une question de ce que la société veut elle-même. Vous ne voulez pas, je l'entends bien, je le comprends, vous ne voulez pas que tous ceux qui demandent puissent avoir accès.
Mais pas du tout,
Mais
pas du tout, mais enfin, c'est pas ça l'enjeu. C'est une loi de liberté. Il s'agit de personnes. C'est une loi de liberté, évidemment.
Bon.
C'est une loi qui accorde une liberté que pour l'instant les gens n'ont pas. C'est une loi qui donne aux gens une liberté qu'ils n'ont pas, le mauvais usage éventuel n'est pas un argument contre son attribution. Alors, c'est uniquement une loi de liberté. Ça n'est rien d'autre.
Si je peux me permettre, ce n'est pas une loi de liberté, c'est un droit. La liberté m'appartient, je peux me suicider demain si je veux, et après c'est un droit.
Donc celui qui ne peut pas se suicider, il fait comment? Qui veut se suicider, il fait comment? Comment ça se passe?
C'est ce que je vous dis.
C'est beaucoup plus simple que les arabesques par lesquelles vous voulez me faire passer.
Non,
je
dis simplement, je continue juste sur la loi de l'éthique, parce que sinon je vais oublier. Je dis que le scandale des scandales, c'est qu'on arrive à une situation d'aujourd'hui où on nous propose une petite fraternité du coup de grâce qui serait celle...
Fraternité du coup de grâce, de la part de gens qui s'aiment et qui cèdent à mourir, fraternité du coup de grâce. Ça vous va de faire des effets de manche sur un geste comme celui-là? Qui est inhumain, là? Fraternité du coup de grâce, qu'est-ce que ça veut dire, ces expressions-là?
Si je peux finir...
Mais quand on voit ce que c'est que d'aider quelqu'un qu'on aime à mourir,
si vous le débattez tout seul, débattez tout seul.
Je déteste cette expression. J'y peux rien. Fraternité du contrat. On n'envoie pas une pichenette aux gens qui aident à mourir quelqu'un qu'ils aiment.
Vous dites des choses qui m'énervent aussi. Je ne réagis pas aussitôt.
Donc
gardons les termes du débat.
Si je peux me permettre, je vais intervenir après Damien Le Guay.
Si je peux terminer juste une seconde. Donc je dis que le président Macron nous explique que c'est une loi de fraternité, c'est une loi qui effectivement propose l'euthanasie et le suicide assisté, alors même que depuis au moins 7 ans, pour ne pas parler 20 ans, on considère qu'il y a 150 000 personnes par an en France qui n'ont pas accès aux soins palliatifs et qui voudraient y avoir accès. On considère que l'hôpital aujourd'hui, pour les hôpitaux psychiatriques, sont dans un état absolument lamentable. On considère que toutes les prises en charge pour les tentatives de suicide de 100 000 ne sont pas faites. Donc on considère que cette grande fraternité-là qui concernerait tout le monde n'est pas au rendez-vous. Et on propose, comme ça, une autre petite fraternité qui est celle, effectivement, que je persiste à penser comme celle du coup de grâce, qui est celle du suicide assisté et de l'euthanasie. C'est l'expression. Voilà.
Alors, un mot quand même.
Un mot sur
d'abord sur la loi
Claes-Leonetti.
Je cite à nouveau Paul Bernard. Il dit que cette loi, qui a été votée sous le quinquennat du président Hollande, constitue un progrès véritable, puisqu'elle permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais, ajoute-t-il, cette possibilité d'endormir le patient pour l'empêcher de souffrir ne s'ouvre que dans les derniers jours, lorsque la fin est imminente, donc trop tard, à un moment où l'esprit et le corps ont déjà trempé dans la douleur jusqu'à s'y perdre. Voilà ce que
Moi, je veux répondre sur les soins palliatifs.
Alors, l'inégale répartition des soins palliatifs sur le territoire national est un enjeu de santé publique et d'égalité républicaine. Voilà. Donc il n'y a pas de doute là-dessus.
Rien n'a été fait.
S'il vous plaît, on fait pas de polémique là, on essaie de réfléchir. Ne dites pas rien n'a été fait, il y a des projets de loi, il y a tout ce qu'il faut. Mais on fait pas de polémique là. L'inégale répartition des soins palliatifs est une injustice à laquelle, pour le coup, il faut remédier.
Ouais.
Bien.
Ça fait 20 ans qu'il faut remédier.
Si les soins palliatifs étaient mieux dotés, deuxième point, il n'est pas douteux que certaines personnes qui veulent en finir changeraient d'avis à cet égard. Ce n'est pas douteux. Bien. Ces deux points-là, je vous les accorde bien volontiers, on sera d'accord. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas de contradiction entre une loi qui accorde l'aide active à mourir et une loi qui augmente, développe et dote considérablement les soins palliatifs. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Mais le troisième point, en revanche, c'est que croire que le désir de mourir d'un individu est soluble dans l'excellence des soins qu'il reçoit, et qu'en somme, si les soins palliatifs étaient décemment dotés, plus personne n'aurait envie de mourir.
Non,
c'est faux.
Personne ne dit ça.
Et si personne ne dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent d'avoir envie de mourir malgré l'ex...
Oui, 0,3%.
Le petit nombre n'est pas un argument. Le petit nombre n'est pas un argument.
Ce n'est pas vrai.
Le fait,
3%.
Le fait d'abord vos chiffres ne sont pas bons.
Pour la
et ensuite, le petit nombre n'est pas un argument dans la mesure où la personne qui souhaite mourir en connaissance de cause, en conscience, malgré l'excellence des soins palliatifs, cette personne-là, aujourd'hui, n'est pas entendue par la loi, le scandale est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Et le scandale est multiplié par le fait qu'ils ne sont pas nombreux et qu'on ne va pas changer la loi pour quelques exceptions. Je trouve ça inhumain. Vous savez, il y a cette belle étude, et j'en ai fini, cette belle étude de Durkheim sur le suicide, on la connaît tous. L'étude, magnifique étude, où on apprend plein de choses sur le suicide, qu'on se suicide plus à Paris qu'en province ou l'inverse, selon les religions, etc. etc. Il n'y a pas une ligne dans cette étude sur les raisons pour lesquelles un homme met un terme à ses jours. Eh bien, c'est exactement la même chose. Les moribonds ne sont pas des statistiques. Il y a des gens qui veulent mourir malgré l'excellence des soins palliatifs. Et ces gens-là, la loi ne les protège pas aujourd'hui.
Ce n'est pas simplement un désir ou une volonté de mourir, Damien Le Guay. C'est peut-être aussi un besoin de mourir. Un besoin d'en finir parce qu'on préfère, en effet, le néant tout court au néant annoncé de la vie sans conscience. Et je pense que c'est un besoin qui ne se réduit pas forcément à quelques exceptions, Damien Le Guay.
Mais c'est vrai, tout ça c'est vrai. Faut pas non plus opposer ceux qui voudraient, comme ça serait mon cas, ceux qui souffrent, les exceptions auxquelles on ne peut pas répondre, et puis ceux qui voudraient une loi de liberté pour poser à tout le monde. La question, je me permets de la reposer, c'est celle des limites. Quelles limites est-ce qu'on donne et comment est-ce que l'État, de façon générale, est capable de répondre à cela? Comment? Voilà. Quelles sont les limites que l'on pose? À ce moment-là, est-ce que toutes les demandes sont recevables? Et à ce moment-là, on encourage et on donne les moyens à tous ceux qui font une tentative de suicide de se suicider. Est-ce que c'est ça? Oui, me semble-t-il, de votre côté.
Mais pas du tout.
Mais
enfin,
si.
Mais j'ai jamais
de
dit
l'autre
ça.
Côté,
je n'ai jamais envisagé une chose pareille. Je ne l'ai jamais dit et je ne le pense pas. Prêtez-moi l'idée que je n'ai pas
finis.
Et faites-moi le reproche. Sera parfait.
Je finis.
Terminé.
Non, mais vous me reprochez ce que je ne pense pas. C'est incroyable.
Alors, quelle limite met à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, demandent à mourir? Ça, c'est la première question. Donc, si vous me dites, il y a pas de limite, vous avez dit qu'il y a pas de limite. Donc, si vous dites,
non, il n'a pas dit ça.
Il n'y a pas de limite, j'ai pas dit ça.
Non, il n'a pas dit ça. Alors deuxième question, et Raphaël Entomène vous répond, et l'émission se termine.
Ah, d'accord.
Quelle est la deuxième question?
Non, la deuxième question, elle est simple. Elle est de dire, personne ne dit ça, mais je dis simplement qu'il y a quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Ça sera une porte d'ouverture. C'est ce que Didier Sicard vous avait dit dans une émission ici même, à réplique, il y a déjà 2 ans, en disant, cette exception l'euthanasie, lui l'entend comme un suicide assisté. Voilà. Il y a un consensus qui existe en France aujourd'hui, si on veut aller un peu plus loin dans le suicide assisté. Claire Fourcade l'a dit, de façon générale l'a dit, beaucoup le disent, en dehors de l'hôpital, quelque chose est possible dans le suicide assisté. Mais le risque, et ce qui ulcère absolument tout le monde, tous ceux qui savent de quoi ils parlent quand ils sont sur le terrain...
On n'est pas sur le terrain, nous.
Non.
Non, on n'a pas à mourir, d'ailleurs, c'est bien connu. Et on n'a pas accompagné les gens qui meurent. On n'est pas sur le terrain.
Bon, alors, terminé. Un mot pour finir.
Je finis.
Le déni de compétence,
Finis.
Il y a un moment, ça va.
Ça simplement...
On n'est pas sur le terrain, nous. Non. On ne connaît pas les soins palliatifs, on n'a pas aidé les gens à mourir, on n'a accompagné personne. C'est vrai.
Enfin, j'ignorais que vous étiez docteur.
Mais je ne vous parle pas d'être docteur. On ne peut pas être sur le terrain sans être médecin.
Oui, mais tout le monde est sur le terrain. Tout le monde a une idée. Tout le monde a une opinion. Entre ceux qui ont une opinion et ceux qui, effectivement, ont accompagné 2000, 3000 personnes et qui le font au jour le jour. Donc, je dis simplement que le problème, et c'est ce que je voudrais, sur quoi je veux insister, le problème essentiel et qui va créer un clash à l'intérieur et des hôpitaux et des soins palliatifs, c'est l'euthanasie. C'est pas le suicide assisté. Si vous voulez aller plus loin, réfléchissons au suicide assisté, la sédation profonde et continue, mais pas à l'euthanasie. C'est ça qui pose
là-dessus,
problème.
Là-dessus, vous seriez peut-être d'accord. Oui. Un mot simplement pour finir, Raphaël, un mot parce que l'émission
se
termine.
Je suis un peu là de l'argument d'autorité du soignant qui a passé des milliers d'heures sur le terrain et qui vous dénie en conséquence le droit de souhaiter les gens mettent un terme à leur jour conformément à leur désir. C'est un peu comme les gens qui vous dénient le droit d'être pour la guerre en Ukraine tant que vous n'êtes pas soldat, voyez. C'est à peu près de même niveau. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui me paraît, moi, c'est que dans l'alternative entre la liberté et c'est pas moi le sophiste là.
Non,
ce qui m'apparaît, c'est que dans l'alternative entre la liberté et la vie, ce qu'on découvre en fait avec cette affaire, de façon générale, c'est que le choix de la vie, dans l'alternative entre la liberté et la vie, le choix de la vie est un choix mortifère. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est le fait que, en somme, la sacralisation de la vie, qui va jusqu'au déni de liberté, qui va jusqu'au refus d'entendre celui qui veut mourir, celui que la vie oblige à souhaiter de mourir, qui va jusqu'au refus de l'entendre, cette sacralisation est vraiment, cette relique de religieux, en somme, en République, me paraît véritablement un adversaire à combattre par la loi, et j'espère de tout mon cœur, en fait, que la loi viendra enfin accorder aux gens le droit que pour l'heure, pour en jouir, ils vont exercer dans d'autres pays.
Bien, merci beaucoup. C'était une discussion très animée. Alors merci Damien Le Guay. Votre livre paru aux éditions Salvator s'intitule « Quand l'euthanasie sera là ». Mmh. Je rappelle aussi, Raphaël Entoven, le titre de votre dernier livre, L'Esprit Artificiel, aux éditions de l'Observatoire. Damien Le Guay, c'est aux éditions Salvator. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Michel Gassic. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.